chers amis, bonsoir. Et je suis très content de vous retrouver ce soir pour cette deuxième journée de la retraite paroissiale de Notre-Dame de Stockel. J'en profite déjà maintenant pour remercier ceux et celles qui ont préparé cette retraite depuis déjà des mois et des mois. Et donc c'est une grande joie de voir ce projet aboutir. Et je remercie aussi le père Francis Gossens d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous sommes heureux de pouvoir profiter de sa parole. Je vous rappelle, comme je vous ai dit hier, que tous les jours, il y a la messe le matin à 7h et à 13h. Je vous indique ces deux-là parce qu'elles ne sont pas encore complètes, mais quand même, on est quand même plus d'une dizaine le matin et ainsi qu'à 13h. Mais il y a encore quelques places, donc n'hésitez pas à consulter sur le site internet de la paroisse de Notre-Dame de Stockel le lien sur quelle messe, et alors choisissez et prenez une place si vous pouvez venir, bien évidemment. Celle de 18h30 était complète. Et puis regardez bien aussi le Doodle, parce qu'il y a possibilité de participer donc en présence du prédicateur dans la chapelle de Notre-Dame de Stockel. Alors regardez bien le Doodle, s'il n'y a pas 15 places remplies, ça veut dire que vous pouvez encore venir. Donc vous mettez votre nom et vous nous rejoignez. Surtout, regardez bien, même si une demi-heure avant, si vous n'habitez pas trop loin, eh bien qu'il y a encore une place, surtout s'il vous plaît, venez, et c'est quand même plus agréable d'être dans la chapelle que de regarder derrière l'écran. Pardon pour tous ceux qui sont obligés de rester derrière l'écran à cause de cette limitation. Autre point, la conférence se termine par cette bénédiction. Je voudrais vous dire aussi qu'il y a une participation aux frais. Alors on a installé une boîte qui n'est pas virtuelle, là, qui est au fond de l'église, et j'en profite pour le dire pour ceux qui sont là. On peut déposer une petite participation aux frais, qui reviendra donc au père Gossens à la fin de cette semaine. Et pour vous-même, sur le site internet, il y a une boîte bleue virtuelle, mais dans laquelle vous pouvez franchement et je dirais efficacement déposer votre participation aux frais. Donc il suffit de faire un versement sur le compte qui est indiqué et regardez bien aussi la communication qu'il faut mettre pour participer à cette retraite. Voilà, je vous souhaite à tous vraiment une très très bonne soirée et je donne maintenant la parole au père Francis Gossens.
Pardon ?
On va chanter bien sûr, oui. Alors nous chantons tout de suite et puis le père Francis Gossens va nous parler.
Et aujourd'hui, en ce mardi, j'aimerais avec
avec vous méditer les mystères douloureux. Pourquoi avoir pris les douloureux? Parce que le monde entier, les hommes, les femmes qui aujourd'hui prient le chapelet, ont médité les mystères douloureux. Les mystères douloureux, c'est la vie que notre Seigneur a vécue jusqu'à sa mort. C'est la vie qu'il a menée. Ou plutôt, ce que moi je crois, mais vous verrez pour vous-même, c'est la vie qu'on a fait vivre au Christ. Les mystères douloureux de la vie de Jésus, c'est la vie qu'on lui a fait vivre, qui fait qu'il a été arrêté. Et vous connaissez la suite comme moi. Je suis quand même surpris aujourd'hui que des gens me disent « Jésus ne souffre plus ». Et moi, je ne peux pas m'imaginer. Notre Seigneur qui du haut du ciel regarde notre monde et qui voit toutes les souffrances d'aujourd'hui. Mais je m'imagine qu'il ne fait pas youpi quand même. Et que Jésus cherche comment il pourrait remédier, reprendre place dans ce monde pour que des hommes et des femmes ne soient plus dans la peine, dans la souffrance, dans l'exclusion, dans les douleurs. Vous connaissez comme moi cette parole de Jésus qui dit « Mais quelle est la cause des guerres ?» Mais la cause des guerres, elles sont dues à toutes les guerres qu'il y a en vous. C'est très drôle. Il y a comme ça toute une série de paroles de notre Seigneur qui nous échappent. J'en viens à ces mystères douloureux. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus. Je suis bien obligé de fixer mon regard sur le Christ et de lui dire, Jésus, aujourd'hui, es-tu en agonie? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui aujourd'hui te met en agonie? Donc, le premier concerné, c'est ma propre vie, moi, religieux et prêtre. Je suis bien obligé de poser la question à Jésus et de lui demander dans ma vie ce qui le met en agonie. Ce qui le fait souffrir, ce qui lui fait de la peine. Alors je ne vais pas me confesser devant vous, étant donné que le père Marot a dit que vous aurez une bénédiction pour bien dormir, je crois que ma confession devant vous serait plutôt une malédiction pour votre nuit. Qu'est-ce qui fait mourir Jésus aujourd'hui? Tout d'abord, la première chose, c'est de voir qu'il n'a pas beaucoup de place dans les cœurs des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Mais de grâce, ne venez quand même pas dire que je me trompe. Nous sommes combien? 1-2% de pratiquants aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a un nombre important d'hommes et de femmes pour lesquels Jésus n'existe pas. Et vous savez comme moi ce que ça veut dire. Quand je n'existe pas pour une personne, je me sens exclu, je souffre, ça me fait de la peine. Quand je ne peux pas donner à une personne tout ce que j'ai envie de lui donner pour la rendre heureuse, ça ne me fait pas plaisir. D'ailleurs, lui-même nous a préparé à cela, par des tas de paroles. Il y en a une qui me vient en tête.
Jésus dit, quand vous entrez dans une maison, souhaitez la paix dans cette maison. Et s'il y en a un ami de la paix, sa paix ira sur lui. Et s'il n'y a personne, elle reviendra sur vous. Ou encore, quand nous nous sentons rejetés, notre Seigneur ne nous dit-il pas, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Prends ta croix, viens sur moi. Donc vous voyez, mes frères et mes sœurs, vous et moi, qui avons le désir de la présence du Christ, mais une présence réelle du Christ dans notre monde, il nous est important de lui dire, Seigneur Jésus, dans ma vie, qu'est-ce qui t'empêche de vivre? Ou si vous préférez, dans ma vie, qu'est-ce qui te met en agonie? Méditez ça. Non pas pour être triste, non pas pour être malheureux, mais pour vous approcher, pour nous approcher du Christ. C'est toujours pour nous approcher du Christ. Et pour être avec lui et lui avec nous. Je sais par exemple qu'aujourd'hui, dans nos églises, on est peu attentif au recueillement, à la présence réelle. Et souvent, je pense à Jésus qui est dans le tabernacle. Qu'est-ce qu'il doit penser de notre attention à sa présence dans Qu'est-ce qu'il doit penser de sa présence dans le tabernacle par rapport à notre attitude? Je ne condamne personne, je ne juge personne. J'ai déjà assez de difficultés avec ma propre vie. Mais de grâce, soyons attentifs à ce Jésus qui veut tant nous donner. Il veut tellement nous donner qu'il veut nous donner sa propre vie. Pas quand ça nous arrange, mais en tout temps, il veut nous donner sa propre vie. Alors, Seigneur Jésus, en ce soir, montre-nous ce qui dans nos vies te met en agonie. Pour que tu vives, pour que tu aies la vie. Nous ne sommes pas dans cette foule qui lui crie toutes sortes et qui le condamne. Nous ne faisons pas partie de cette foule. Ne l'oublions pas, ni vous ni moi, aujourd'hui, nous faisons partie de la foule qui condamne Jésus. Nous faisons partie de la foule, même si elle est petite, de ceux qui disent, mais de grâce, que tu puisses vivre, que tu puisses bien vivre. Voyez ce premier mystère douloureux, et on le médite deux fois la semaine, le mardi et le vendredi. Personnellement, il me parle beaucoup dans mon désir de voir Jésus. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Qu'est-ce qui, dans ma vie, lui donne des sales coups? Alors, ces dernières années, je pense que notre Seigneur a beaucoup souffert. A beaucoup souffert de tous les prêtres. Et de tous les scandales de pédophilie et autres. Oui, Jésus a dû beaucoup souffrir de voir ces hommes qu'il a rendus capables de le rendre présent, de le mettre dans une telle situation. Je pense aussi à tous tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été blessés, quel dégoût il doit recevoir. Au risque de me faire ramasser. Quand je vois aujourd'hui comment on réduit le nombre d'Eucharisties, vous croyez que ça lui fait plaisir? Lui qui se fait une joie de descendre du ciel pour s'incarner en tous ceux qui sont là à la célébration de l'Eucharistie et qu'aujourd'hui on les réduit les messes. Moi personnellement, ça me fait souffrir et je souffre pour lui. Lui qui a dit « Je me fais nourriture pour que tu vives de ma vie. Je me fais nourriture pour que tu vives de ma vie. » Nous ne devrions pas tolérer ça. Je vous dis bien, je ne sais pas qui écoute en direct. J'espère qu'à la sortie, je ne vais pas avoir un procès canonique. Mais il paraît que le droit canon, c'est le seul canon qui tire de travers. Alors, je risque peut-être pas trop. Vous voyez, j'ai simplement pris deux points. On pourrait encore continuer comme ça et voir aussi comment Jésus vit quand nous sortons. Il sort avec nous pour, à travers nous et par nous, rencontrer le monde et les lieux où nous nous trouvons. Est-ce que je lui donne assez de place? Et comment est-ce que je le considère? Est-ce que je lui donne assez de place? Donc, vous voyez, cette histoire de la flagellation, c'est bien obligé de poser la question et de dire, mais à travers ma vie, est-ce que tu as de mauvais coups sur le dos? Ça ne vous arrive jamais de dire dans votre prière au Seigneur que personne ne s'éloigne de toi de ma faute. Je me sens plus près de la tombe que du berceau. C'est juste, hein? Je ne vivrai plus ce que j'ai déjà vécu. Ouf pour vous. Mais quand je me trouverai devant lui, est-ce qu'il me montrera tout ce que j'ai fait pour lui? Or, mon désir, c'est de travailler pour lui. Pour lui. Pour lui. Deuxième mystère, la flagellation. Les coups que Jésus reçoit aujourd'hui. Moi, j'aimais beaucoup quand le père Marot a rappelé qu'il y avait une Eucharistie à 7h, à 13h, à 18h30, et qu'il y a encore de la place. Profitons. Au sens le plus noble du mot, profiter. Pour la gloire de Dieu, comme nous disons, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Deuxième mystère, la flagellation. Et au fond, tous ces mystères, nous les méditons en compagnie de la Sainte Vierge qui était là. Qui a vu ce qu'on faisait subir à son fils. Et aujourd'hui aussi, elle voit tout ce qu'on lui fait subir. Ça a dû être terrible pour elle, ça. Ça a dû être terrible pour elle. Une mère qui voit ce qu'on inflige à son fils. Le faire mourir. Lui faire taper dessus. Et puis, troisième mystère, couronnement d'épines. C'est terrible cette histoire du couronnement d'épines. Avez-vous déjà pensé le cœur de ceux qui lui ont fait cette couronne d'épines? Tout d'abord, il faut avoir un esprit solidement tordu pour avoir pareille imagination. Ah, il veut une couronne, il s'est dit qu'il était roi. Eh bien, on va lui en faire une de couronne. Vous avez déjà essayé d'aller cueillir des épines. C'est terrible d'avoir dû faire ça. Il faut être complètement tordu pour faire ça. Mais complètement tordu. On a eu l'idée. Il y en a qui ont été les cueillir, les épines. Et puis, ils ont tressé cette couronne. C'est parce que nous, voilà, on lui pose une couronne sur la tête, bang. Épisode suivant. Mais si on s'y arrête et qu'on entre un peu dans le cœur, dans l'esprit de ceux qui ont eu une telle violence vis-à-vis de lui, l'idée, les cueillir, tresser la couronne, et puis trouver une jouissance immense, aller lui pousser dans la tête et à le voir saigner. Vous regardez cette histoire de couronne d'épines. Ça veut dire qu'à travers tous leurs gestes, tous leurs actes, ils ont dit toute une série d'idées fausses sur lui, moquées de lui, crachées dessus. Vous imaginez cette compréhension du Christ qui ne se rebelle pas contre eux. Vous seriez laissé faire? Moi pas. J'aurais crié, j'aurais hurlé, j'aurais tapé, j'aurais fait plein de trucs. Et lui reste continuellement dans l'amour. Il continue de les aimer. J'aime aussi de m'imaginer le regard de Jésus sur ceux qui lui ont fait ça. Et sur le bonheur compris, tous ceux qui étaient là occupés de regarder. Mais quelle bande de salauds, hein. C'est quand même drôle que le Vendredi Saint, on ne parle pas de tout ça dans nos journaux, à la TV et ailleurs. Sur Internet, Instagram, bidule et machin truc. Et qu'on ne fait pas découvrir aux gens ce que c'est que d'aimer. Et donc, vous et moi, nous sommes unis à celui qui a un tel amour, une telle grandeur de cœur. C'est lui, notre modèle de vie. Et s'il est mon modèle de vie, je suis capable d'aimer comme il aime. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la rancune, par rapport à la violence qu'il peut y avoir en moi? Rancune, violence, réaction, condamnation, jugement. Vous voyez, quand on médite les mystères douloureux, on découvre ce qu'est un disciple du Christ dans le monde. Quand il dit « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples », eh bien, moi, je ne suis pas fier, hein. Moi, je ne sais pas aimer comme ça. Je suis toujours occupé d'avoir mon esprit de vengeance. Ah, tu m'as fait une saloperie. Attends, au tournant, je t'aurai. Vous voyez, la vie d'un disciple du Christ, c'est un disciple dans l'amour. Parce que l'amour guérit, l'amour. L'amour transforme, l'amour fait vivre, l'amour fait exister. J'anime pas mal de retraites et surtout pour des religieuses. J'ai une vocation d'être bénie entre les femmes. C'est pour ça que je suis célibataire. Et souvent, j'aime demander aux sœurs si elles aiment Jésus. Il n'y en a encore aucune qui m'a dit non. Or, quand on réfléchit et qu'on dit qu'on aime Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? L'aimer, c'est en parler d'une telle manière qu'il est présent et vivant. Moi, je voudrais aimer Jésus de telle sorte à ce que lorsque je parle de lui, il est là. Je voudrais l'aimer comme ça. Et je nous invite à lui faire cette demande. Et à lui dire, je veux t'aimer de telle sorte à ce que tu sois vivant et présent. Elle est belle, vous savez, la vocation chrétienne. Donc si je l'aime, de telle manière à le rendre présent et vivant. Alors il peut agir et découvrir et devenir fécond dans notre monde. Moi j'ai vraiment envie de tout faire pour que notre Seigneur Jésus puisse retrouver toute sa fécondité. Nous avons besoin de vocation. D'hommes, de femmes qui se mettent à la suite de Jésus, mais parce qu'il aime lui. Moi, je ne suis pas sûr qu'au début de ma vocation religieuse, j'aimais Jésus comme ça. Quand j'y réfléchis à certains moments, je me dis, mais je ne suis pas certain que je suis rentré en vie religieuse, d'abord par amour du Christ. C'est avec les années que tout ça a pris place. C'est avec les années, parce que j'ai fait l'expérience de son amour pour moi, j'ai fait l'expérience de son pardon, j'ai fait l'expérience de sa miséricorde, j'ai fait l'expérience d'un jugement qu'il ne pousse jamais sur moi, mais qui, par ce qu'il est, vient mettre en lumière tout ce qui est saint et beau. Regardez ce qu'il fait en vous. Il met en lumière tout ce qui est beau et tout ce qui est saint en vous et tout ce qui est éternel en vous. Si vous préférez, ce qui de vous ne mourra jamais. J'espère que le jour de mes funérailles, il y aura quand même quelqu'un qui dira ce qu'il a vu qui était éternel en vous. C'est-à-dire ce qui sera nécessaire de moi au ciel. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'expérience que vous en avez, mais j'ai été 17 ans quand même curé, même si je n'en ai pas trop la vocation. J'étais 17 ans curé de 4 paroisses. Et au funérail, j'en ai entendu toutes les couleurs. Ah, on regrette que tu es parti. Tu faisais bien la mousse au chocolat. Que deux fois je me tenais aux chaises, à la chaise, et que je disais au Seigneur, tu m'as fait une crise de foi. Hein? Vous voyez, nous avons du mal à mettre en évidence ce qui ne mourra pas en nous. Demandez ça au Seigneur, afin qu'il fasse grandir en vous ce qui est éternel. Et ce qui est éternel en vous, en moi, c'est tout ce qui est de lui. C'est tout ce qui est de lui, pour lui et en lui. Vous voyez, quand on pense à ce couronnement d'épines, tout ce que cela peut éveiller, réveiller, nous amener à aller lui dire, oui, miséricorde pour tout le reste. Miséricorde pour tout le reste. Et vous comprenez bien que la joie du Seigneur, c'est de nous donner son pardon. Vu que la joie du Seigneur, chaque fois qu'il nous pardonne, ça veut dire qu'il reprend toute sa place en moi. Chaque fois que je reçois son pardon, il prend toute sa place en moi. La vie chrétienne est belle, hein? Elle est unique. C'est pas aller à la messe et dire trois « Je vous salue Marie » au matin et au soir, oui c'est bien, c'est merveilleux. Mais lorsque cela est incarné dans le désir de rendre Jésus vivant aujourd'hui. Courage, un pas de plus dans le chemin, dans ce chemin des mystères douloureux. Quatrième mystère douloureux, le portement de croix. Alors nous savons des choses là-dessus. Nous savons qu'il y a une foule qui était là. Nous savons qu'il y a un certain Simon de Cyrène qui est arrivé, il revenait des champs, il avait deux gamins, Alexandre et Rufus, et qu'il a été réquisitionné par les soldats pour aider Jésus à porter sa croix. J'aimerais bien, moi aussi, d'aider Jésus à porter sa croix. Et je me rends compte que c'est un engagement que nous proposons constamment aux chrétiens. Vous ne voulez pas rendre ce service? Vous n'auriez pas envie de faire un peu de catéchèse? De venir un peu à l'adoration? D'aller visiter des malades? D'être la présence de Jésus auprès des souffrants. Regardez un peu si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, dans Simon de Cyrène, et si vous ne sentez pas en vous ce désir de le devenir, de l'être. Et puis, dans ce portement de croix, dans ce chemin, il y a aussi notre Seigneur, on sait, qui tombe une fois, deux fois, trois fois. Jésus peut tomber, tellement la souffrance est lourde. Lui, il comprend mes chutes. Lui, il sait ce que c'est que de tomber par le péché des autres, par le mien. Au fond, si je tombe, c'est parce qu'un jour, on a développé un péché en moi. On m'a séduit par quelque chose. L'alcool, la drogue, la prostitution, la pornographie, le fric, et combien d'autres trucs qu'on sait bien que quand on tombe dedans, on est foutu. On est foutu, on tombe à terre et c'est la misère. Des colères, toutes sortes de choses. Ce qui me fait tomber, s'il y en a un qui me comprend, c'est bien Jésus. Parce que lorsque je me souviens que j'ai été créé à son image et à sa ressemblance, de par le fait que j'ai été créé par Dieu, il n'y a rien qui me fait tomber. Tout ce qui me fait tomber vient de drôles de disciples du Christ, d'êtres humains ceci, d'une société cela. Il ne faut pas avoir peur de nos chutes. Dieu ne les a pas mises en nous. Et il souffre de nous voir tomber. C'est le monde qui rigole de ça, de mes chutes. Hein? Il se croyait plus malin que les autres. Hein? T'as vu? Moi, j'ai vécu dans un village. Hein? J'étais 4 ans curé de 4 villages. Et je vous assure que j'avais 5 personnes en face de moi, mais c'était notre Notre-Dame de RTL, quoi. Madame Tel, monsieur Tel, je vous le dis à vous, mais je ne le dis à personne d'autre, vous savez. D'ailleurs, plus je connaissais cette dame, plus vite j'ai supprimé mon abonnement au journal et aux faits divers. Ça, c'est la première chute. Ce qui en moi me fait tomber. Et qui donc, Jésus tombe avec moi. Jésus tombe avec moi. Lui, il tombe avec moi. Et puis, il continue la route. Hein. La deuxième chute. Hein. Vous savez, toutes les fois où peut-être qu'on vous a dit « Je t'avais prévenu, je t'avais aidé, je t'avais pardonné, tu avoueras quand même que si tu m'avais écouté, ça ne te serait pas arrivé. » Moi, j'entends des voix qui m'ont dit ça. Et je ne suis pas Jeanne d'Arc. J'entends des voix qui m'ont dit des choses comme ça. Et dont j'ai été terriblement humilié. Parce que personne ne veut tomber dans ses travers ou retomber dedans. Personne. Personne. Je n'entends jamais Jésus me dire « Si tu m'avais écouté, hein ?» D'ailleurs, si Jésus avait ce pareil langage vis-à-vis de nous, il y a longtemps qu'il m'aurait abandonné. Or, il dit tout le contraire. Tu le sais bien. Moi, je serai toujours avec toi. Je serai toujours avec toi. Tu serais toujours avec toi. Donc, vous voyez, est-ce que moi, je voudrais avoir ce même discours. Si vous préférez, ne faut-il pas demander au Seigneur qu'il nous fasse la grâce de parler son langage? Parce qu'au fond, qu'est-ce qui manque dans notre monde? C'est le langage de Dieu, le langage du Christ. Quand on me parle le langage du Christ, quand on me parle le langage de Dieu, je sens la vie qui prend vie. C'est tout autre chose que de me parler le langage matérialiste, le langage de la réussite, le langage de « vas-y, il faut que tu réussisses ». Le Seigneur me parle le langage de la réussite humaine. Et s'il y a bien un langage qui manque aujourd'hui, c'est bien celui-là, le langage de la réussite divine, de la réussite de Dieu en nous. Pourquoi est-ce que ça ne fait jamais partie de nos intentions prières? Je vais risquer un truc peut-être pas sympa, mais tant pis, hein, vous prierez pour ma conversion. Quand je vais dans des paroisses le dimanche matin, je suis toujours déçu des prières universelles. J'entends toujours dire au Seigneur tout ce qu'il doit faire. Et j'aimerais tant entendre à la fin de chaque intention, je te le demande, mais tu peux compter sur moi pour l'accomplir, pour t'aider à l'accomplir. Je te demande telle ou telle ou telle chose, mais tu peux compter sur moi pour que cette demande puisse se réaliser. Moi, j'aime beaucoup de lire la vie des saints et des saintes. Et ce que je vous dis ici me vient d'une parole du saint frère Lucien Marie de Malogne. Il paraît que quand les gens disaient au saint frère « Vous prierez pour moi, frère », le saint frère Lucien disait « Nous prierons ensemble. Nous prierons ensemble. » Un engagement. La prière, ce n'est pas le carnet de commandes en trois exemplaires. Un pour le Père, un pour le Fils et un pour le Saint-Esprit. Mais la prière, c'est l'engagement à la réalisation du désir. Donc, vous voyez, cette deuxième chute, tout ce qu'on peut plaquer comme condamnation, comme jugement, peut-être que vous avez fait ça, peut-être qu'on a fait ça vis-à-vis de vous, peut-être que vous êtes encore lié à ces paroles, peut-être que vous voudriez que les personnes à qui vous avez dit ça, elles soient déliées de ces paroles. N'oublions jamais que notre prière pour quelqu'un est une prière qui envoie du bon à la personne. Quand je prie pour quelqu'un, j'envoie du bon à la personne. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous font du mal. Sinon, qu'est-ce que vous faites de plus que les païens? C'est une ipsissima verba Christi. Vous voyez comme je parle bien flamand. Puis il y a cette fameuse troisième chute. En fait, je ne vous ai pas dit ça, mais j'ai travaillé 8 années à Saint-Luc en psychiatrie avant d'entrer en vie religieuse. Et sur la découverte du cœur de l'être humain et de ses souffrances, c'est les plus belles années de ma vie. Fréquenter comme ça pendant 8 ans des personnes qui sont malades dû au regard et aux paroles qu'ils ont reçues. Alors cette troisième chute de notre Seigneur me parle beaucoup. C'est toutes les fois où on dit maintenant ça suffit, hein. Moi je ne m'occupe plus de toi. Tu ne te rends pas compte que tu me rends malade? Est-ce que tu te rends compte de la vie que tu me fais mener, quoi? Moi c'est fini, tu sais. Ça, c'est terminé. Hein. Tu me fais beaucoup trop souffrir. Donc, je vois la différence entre le langage humain et le langage divin. Quel est le langage qui manque aujourd'hui? C'est pas le langage divin? Qui le tiendra si vous et moi, nous n'en avons pas le désir? Qui pratiquera ce langage si vous et moi, nous n'en avons? Alors pouvons-nous croire que tout ce qui est du désir de Dieu en nous, c'est par lui qui vient le déposer en nous? Tout ce qui a de bons désirs en vous, en moi, c'est lui qui vient le déposer en nous, parce qu'il sait que nous sommes capables d'accueillir son désir. C'est tout le contraire de lui dire d'accomplir nos désirs. Vous avez déjà dit ça hier avec le Saint-Péternel Garnet commente. Seigneur, accomplis, dépose tous tes désirs en nous. Alors je suis uni à lui, je suis en communion avec lui. Donc vous voyez ce fameux 4e mystère douloureux, le portement de croix. Mais je pourrais encore vous en parler longtemps. Car je suis toujours impressionné par tous ces mystères de notre Saint-Rosaire. 5e mystère douloureux, la crucifixion, la mort de Jésus. Et c'est là où il y a tout un public qui change. À la crucifixion, vous avez encore ces salauds de soldats qui s'amusent à clouer Jésus sur la croix. Je m'imagine parfois le regard de Jésus sur ces hommes qui sont là, à l'attacher à la croix. C'est quand même drôle que le regard du Christ n'a pas transpercé le regard de ces hommes. Je m'imagine qu'ils l'ont parcouru. Ils ont fait leur boulot, conscients qu'ils faisaient bien leur travail et qu'ils faisaient ce qu'ils leur demandaient de faire. Des espèces un peu de cornichons qui ne sont pas capables de réfléchir aux actes qu'ils posent. Faire mal à l'autre. Faire mal à l'autre. Et puis, notre Seigneur est attaché à la croix Et qui est là? Sa sainte mère, pauvre femme. Vous avez déjà essayé d'entrer un peu dans le cœur de la très sainte Vierge. Le cœur d'une mère qui voit ce qu'on a fait subir et souffrir à son fils. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le cœur de la Sainte Vierge, mais je m'imagine comme elle aura été secouée d'entendre Jésus lui dire « Mais tu sais, ce sont tes enfants, hein ?» Et c'est votre mère. Pouvez-vous imaginer ça? Quand on sait la suite, qu'elle s'est rassemblée avec tous ceux qui l'avaient renié, qui l'avaient laissé tomber, et qu'elle a prié pour que leur esprit devienne l'esprit du Christ. Il ne faut pas avoir peur, hein, de nos mises en croix. On sait qu'il y en a une mère qui ne voit pas notre mal, mais qui voit notre bien. Si la Sainte Vierge n'était pas capable de voir le bien et le bon qu'il y avait dans tous ceux qui l'ont abandonné, qui l'ont nié, elle n'aurait jamais prié et elle n'aurait jamais cru qu'ils étaient capables d'avoir l'Esprit de Jésus. Moi, j'aime la Sainte Vierge et je suis heureux de lui dire qu'elle est ma mère. J'ai besoin d'une mère qui a une telle capacité d'aimer, qui ne regarde pas les côtés tordus de ses enfants, mais qui prie pour eux. Parce qu'elle sait de quoi ils sont capables. Donc la prière de la Sainte Mère, c'est pour que mon âme soit libérée de tout ce qui emballe mon âme et qui n'a rien à voir avec celui qui l'a créé. Elle est là au pied de la croix et elle recueille les dernières paroles de Jésus. Ce sont tes enfants. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais oui, c'est vrai, notre monde ne sait pas ce qu'il fait en abandonnant le Christ. Notre monde ne sait pas ce qu'il fait en abandonnant Jésus. Et puis, il y a les saintes femmes aussi qui sont là, Sainte Marie-Madeleine. On dit que Jésus l'avait délivré de sept démons. Elle n'a plus jamais voulu quitter Jésus. Elle est restée avec lui. Comme elle devait souffrir de voir que celui qui lui avait rendu toute sa dignité était zigouillé et maltraité comme ça. Comprends qu'au matin de Pâques, elle était complètement perdue, la pauvre. Hein. Elle était complètement perdue. Dis-moi, enfin, mais c'est impossible que celui qui m'a rendu une telle vie, on n'y soit pas plus attaché et qu'on ait voulu le faire mourir et qu'on a été incapable de voir le bien et le bon qu'il offre, qu'il donne en donnant sa vie. C'est un grand mystère pour vous, pour moi, de devenir capable de comprendre, de voir tout ce qu'il nous donne. Nous sommes tellement capables de voir tout ce qu'il nous a pardonné. Il ne m'a pas guéri de ceci. Il ne m'a pas guéri de cela. Il ne m'a pas délivré de ceci. Il ne m'a pas délivré de cela. Dans mon village, on m'avait prié Notre-Dame de la délivrance, mais ce n'était pas pour ça. C'était pour que les femmes accouchent plus facilement. Jésus, en nous, est-il vraiment notre sauveur? Et ceux qui le suivent en méditant ces fameux mystères douloureux, n'est-ce pas ceux-là à qui du haut de la croix Jésus remet son esprit? Parce que nous, on a un peu facile hein, de dire dans le mystère glorieux le don de l'Esprit Saint, la Pentecôte, mais il faut le suivre pour vivre de son esprit. Il faut le suivre dans son mystère de mort et de résurrection. Hein. Il faut accepter que tout ce qui est source de mort en moi soit cloué à la croix pour que son esprit puisse prendre toute sa place en moi. Eh bien, vous êtes des saintes personnes de m'avoir écouté jusque maintenant. Merci beaucoup. Peut-être que ça vous paraît très dur comme chemin à vivre, mais je crois que c'est le seul chemin. C'est le seul chemin qui nous est offert pour que nous soyons imprégnés de l'Esprit et que notre vie soit sa vie. Oui, ça vous paraît très dur, et je vous comprends, moi aussi ça m'est difficile. Alors je pense à Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul était un homme très fort, très exigeant, et quand il faisait des conférences aux premières filles de la charité, parce qu'il y avait eu une conférence de 1652 où il termine en disant à Sainte-Louise qui était là et aux premières sœurs de la charité, filles de la charité, pardon, elles ne sont pas religieuses, il leur disait, ça vous paraît difficile hein, tout ce que j'ai dit, et vous croyez que vous ne serez pas capable de l'accomplir. Eh bien, je vais vous donner la bénédiction du Seigneur. Et accueillez la bénédiction du Seigneur, vous deviendrez capable de vivre tout ce qu'il attend de vous. Alors à vous, à moi, en ce soir, notre Seigneur attend quelque chose. Attend quelque chose. Attend une démarche de notre part pour qu'il puisse bien voir que notre désir, c'est de le suivre. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En vous souhaitant une excellente nuit, en compagnie du Christ, allez dans la paix du Christ. Encore merci. paix de Dieu qui surpasse tout, garde en ce soir nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus.